Bonsoir et bienvenue à la Tribune de la Presse. Ce vendredi 8 juin 2012, avec des confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité cette semaine. De grands thèmes retenus pour vous ce soir, à savoir publication par la CENI mercredi dernier du calendrier réaménagé du processus électoral et la déchéance du gouverneur de la province du Kassai Occidental. Participe au débat Innocent Kaboukala, directeur des infos à Global Télévision, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Innocent.
Bonsoir Kenny, bonsoir Radio Capi.
Merci. Israël Moutala, journaliste à Géopolis, un magazine économique des activités extractives. Bonsoir Israël.
Bonsoir.
Et Joseph Makamba, directeur de programme à la radio-télévision Malanji. C'est une radio-télévision qui émet depuis Kananga au Kassai Occidental. Bonsoir Joseph.
Bonsoir Kévi et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Merci de nous suivre partout en RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Comme d'habitude, avant d'aborder les thèmes retenus pour vous ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite a traité ces sujets. La revue de presse avec vous, Samuel Kachak.
Bonsoir. La prospérité consacre sa une au réaménagement du calendrier des prochaines échéances électorales. Ce journal titre « Élections provinciales, sénatoriales et des gouverneurs 2013 ». La CENI dévoile le calendrier revu et actualisé. Dans ce calendrier réaménagé relève la consoeur. L'on retiendra que les élections provinciales auront lieu le 25 février 2013, les sénatoriales le 5 juin 2013, tandis que les gouverneurs des provinces seront élus le 22 juin 2013. L'observateur qui rebondit sur ce sujet relève que dans cette communication du calendrier électoral, le président de la CENI, Daniel Ngoï Moulunda, a fait part de l'engagement de son institution à améliorer de manière considérable l'organisation des prochaines élections. La CENI compte gagner ce pari en prenant en compte les recommandations issues de l'atelier d'évaluation du processus électoral organisé par la CENI en avril dernier. Comme autre sujet ayant occupé les unes des journaux parus cette semaine à Kinshasa, c'est la destitution mercredi 6 juin dernier par l'Assemblée provinciale du Kassai Occidental du gouverneur Hubert Kabasubabo. L'observateur qui rapporte cette information précise que la dilapidation des recettes de la province par des voyages à l'étranger, la violation du principe d'autonomie administrative et financière de la brigade de mobilisation des recettes de la province sont là les griefs qui sont à charge contre le gouverneur. De son côté, Le Phare titre sur la mise en circulation des nouvelles coupures des billets de banque. Selon ce journal, avec la mise en place de ces nouvelles coupures de 1000, 5000 et 10 000 francs congolais, Matata Pogno fait peur aux gagne-petits. Depuis cette annonce, écrit Le Quotidien, les gagne-petits qui sont inquiets en RDC, se demandent si les caisses de l'État sont effectivement pleines, si la production agricole et industrielle a été effectivement relancée et si la Banque centrale du Congo dispose suffisamment de devises pour prévenir une éventuelle inflation. Le potentiel titre, nouveau billet des banques, les surdoués sont sur une mauvaise pente. Un challenge difficile à relever par l'autorité monétaire, même si elle prétend préserver la stabilité du cadre macroéconomique. Abordant la situation sécuritaire de l'Est et de la RDC, L'Avenir écrit qu'après un rapport confidentiel de la MONUSCO, Human Rights Watch cloue le Rwanda. Selon un communiqué de cette ONG internationale, le Rwanda continue à appuyer le M23 en combattant armes lourdes et munitions.
Les autres sujets qui ont fait aussi l'actualité cette semaine, c'est le cas du lancement des nouveaux billets d'ici juillet 2012, la situation sécuritaire au Nord Kivu avec le départ du CNDP de la majorité présidentielle, mais également l'interpellation des deux ministres à l'Assemblée nationale. Innocent Kaboukala, je rappelle que vous êtes directeur des infos à Global Télévision, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Parlons de la situation sécuritaire au Nord Kivu avec le départ du CNDP de la majorité. Est-ce un mauvais signe?
Bon, on peut pas dire un mauvais signe, tout simplement parce que, en fait, il s'agit là d'une organisation. Un mauvais signe, peut-être dans le sens que c'est, on aimerait avoir cette famille-là unie. Mais ce départ est tout à fait fondé parce que les agendas des uns et des autres ne correspondent pas. Le CNDP avait son agenda. Même si au grand jour on ne nous avait jamais révélé, on sait très bien que le CNDP est toujours très proche du mouvement actuellement en vogue dans cette partie, donc le M23. Donc ils se sentent beaucoup plus de ce côté-là que du côté de la majorité, ici, donc la classe purement politique. Peut-être il y a des frustrations, mais les frustrations, il faut les retrouver dans les revendications qu'il y a là-bas. À partir du moment que l'un de leurs est pourchassé, s'il faut s'exprimer ainsi, alors ils se sentent en insécurité.
Israël Moutala, vous êtes journaliste à Géopolis, un magazine économique des activités extractives, où la Banque Centrale prévoit de lancer de nouveaux billets d'ici juillet 2012. Comment vous avez accueilli cette annonce de la Banque Centrale?
Je pense que le lancement de nouveaux billets en juillet est une très bonne chose pour l'économie congolaise qui en a besoin. Je sais que cela a créé beaucoup de craintes, beaucoup d'appréhension négative, mais toute proportion gardée, je pense que c'est une très bonne chose pour l'économie, parce que n'oubliez pas que la monnaie est à l'économie, c'est que le sang est au corps humain. S'il y en a moins, c'est pas bon. S'il y en a beaucoup, c'est pas bon non plus. Il faut qu'il y ait un juste dosage. La monnaie, elle naît, elle meurt, il y a des destructions, et tout ça, il fallait une nouvelle adaptation. Donc, les nouveaux billets vont faciliter les transactions, et je pense que le procès qu'on fait au ministre de au gouvernement, sur, ça veut dire que les craintes d'inflation ne sont pas justifiées, parce que l'actuel premier ministre, quand même, c'est lui-même qui a été le principal artisan de la stabilité macroéconomique. Il ne peut pas en être le bourreau. Donc, le gouverneur de la Banque centrale, ainsi que toutes les autorités nationales, ont pris toutes les mesures pour que cette introduction de nouveaux billets qui va faciliter les transactions commerciales ne puisse pas créer de l'inflation.
Joseph Makember, vous êtes directeur de programme à la radio-télévision Malanji. C'est une radio qui émet depuis Kananga, au Kassai occidental. On sait que l'actualité au Kassai occidental aujourd'hui, c'est la déchéance du gouverneur Hubert Kabasubabu. Un sujet que nous allons aborder ce soir. Mais aujourd'hui, quelle est la situation dans la ville?
Bon, en dehors de cette question-là, si on peut évoquer une autre actualité, c'est le fait que ce jeudi, dans la soirée, il y a eu un incendie qui s'est déclaré en plein centre-ville sur l'avenue commerciale de la ville de Kananga, l'avenue Maka. Il y a un dépôt de produits pétroliers qui a pris feu aux environs de 16-17 heures locales ici à Kananga. Donc c'est quelque chose qui avait presque bouleversé les activités à Kananga. Et ce qui est grave, est-ce que jusqu'alors on ne sait pas encore établir la vraie origine des incendies. Heureusement, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, mais des pertes ont été considérables en ce qui concerne les produits qui étaient conservés dans ces dépôts. Et on en parle comme actualité parce que c'est quelque chose qui pouvait être évité, parce que le gouvernement provincial avait entamé une campagne pour la délocalisation des dépôts de produits pétroliers du centre-ville vers les sites et un peu éloigné des quartiers où il y a beaucoup d'activités ici à Kananga, mais curieusement, la mesure n'a jamais abouti, on n'a jamais vu les décisions prises pour ces distributeurs de carburant, et aujourd'hui, on se trouve devant cette situation qui a failli faire sauter autant de magasins, autant de maisons tout autour des dépôts qui étaient implantés en plein centre-ville.
Premier thème de ce soir, processus électoral en RDC, publication mercredi dernier qui par la CENI du calendrier réaménagé pour les élections provinciales, urbaines, municipales et locales 2011-2013. Ce chronogramme prévoit le premier scrutin en février 2013 avec l'élection directe des députés provinciaux, suivie de l'élection indirecte des maires prévue en mars 2014. À l'occasion, le président de la CENI a rassuré l'opinion quant à la crédibilité de la suite du processus avec ce nouveau calendrier qui, selon Daniel Ngoy-Mulunda, tient compte des exigences techniques et opérationnel. Plus d'explications avec vous, Michel Kifinda.
Le calendrier réaménagé est rendu public par le bureau de la CENI, étant le processus jusqu'en 2014 au lieu de 2013 comme préalablement prévu. Mathieu Pita, rapporteur de la CENI, donne ici les grandes dates de ce calendrier.
Le 25 février 2013, jour des scrutins, élection provinciale. Le 5 juin 2013, élection des sénateurs. Le 22 juin, élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Le 30 mars 2014, élection des chefs de secteur et des bourgmestres. Et enfin, le 31 mars, élection des maires.
Dans le souci de crédibiliser la suite du processus électoral, le président de la CENI s'engage à mettre en application toutes les recommandations issues de l'atelier d'évaluation d'avril dernier. Daniel Ngoyi Mulunda.
Dans cette perspective de crédibiliser davantage l'organisation des élections, le bureau ainsi que toutes les structures techniques de la CENI s'employeront désormais à fiabiliser et stabiliser le fichier électoral en y intégrant les OMI. Actualiser la cartographie des bureaux de vote en partenariat avec tous les acteurs de terrain.
Le président de la CENI s'est dit convaincu qu'en observant ces recommandations, la suite du processus subira des améliorations par rapport à tout ce qui a été reproché au processus passé.
Israël Moutala, comment vous analysez ce nouveau calendrier publié par la CENI, un processus qui va jusqu'en 2014 alors que c'était prévu que ça irait jusqu'en 2013?
Bon, c'était plus ou moins inéluctable vu le chaos, le cafouillage qui a caractérisé les élections de novembre dernier, et donc il fallait qu'on en tire toutes les conséquences, même en allongeant le calendrier tel qu'il se présente, qui va jusqu'en 2014, mais je ne pense pas qu'on a encore tiré toutes les conséquences. Dans son mot, le président de la CENI a dit que c'était pour crédibiliser davantage. Donc ça montre bien que le travail de la crédibilisation du processus est encore un long chemin à faire devant lui. Nous attendons d'abord la réaction aussi justement de la société civile, de la classe politique.
Déjà la classe politique a réagi, l'opposition aurait voulu que la CENI puisse associer la classe politique, l'Assemblée nationale, la société civile pour ensemble établir ce calendrier.
Le vrai débat de ça justement, il y aura un débat à l'Assemblée nationale sur la configuration du bureau de la CENI et sur le calendrier à venir. Bon, ce calendrier jusque là, c'est le calendrier, il n'est que provisoire. Tout dépendra du débat général qu'il y aura sur le bureau de la CENI et sur les élections passées qui aura lieu à l'Assemblée nationale. Mais d'ores et déjà, sur la question de la fiabilisation du fichier électoral, qu'on nous dise un peu ce qu'il en est. Est-ce que cette fois-ci le fichier ne sera pas un secret d'État? Il peut être sur Internet, qu'on sache qui est électeur, qui ne l'est pas, qu'on accède au fichier, donc qu'on le voit, et que les noms qui sont inscrits dans ce fichier soient connus quand quelqu'un veut le consulter, que ce ne soit pas un secret d'État. Il a parlé de l'actualisation de la cartographie de bureau. Ce sont des questions cruciales, centrales, pour crédibiliser un processus électoral. Sur ces questions là-bas, encore une fois, ce sont des promesses, mais il faut qu'on voie justement dans les faits qu'est-ce qui a été fait pour fiabiliser le fichier, qu'est-ce qui a été fait pour actualiser la cartographie. Et donc ce débat-là aura lieu, à l'Assemblée nationale.
Innocent Kaboukala, est-ce qu'on peut considérer ce calendrier de définitif et qu'il n'y aura plus d'autres changements?
Ça, on ne sait pas le dire, parce que même on parlait d'une projection. Et donc, comme l'a dit Israël, il devait y avoir un débat à ses propos pour parler d'un calendrier définitif. Mais ce qui est plus inquiétant ici, c'est qu'on ne semble toujours pas évoluer pour donner quand même de l'estime à ce peuple qui a fait confiance à ces élections et qui voudrait aussi vivre dans un État démocratique où les élections se passent normalement. La crédibilisation, est-ce que on a su donner tous les éléments possibles pour avoir ce crédit-là? Commençons d'abord par les observateurs qui ont été ici chez nous. Ils ont fait beaucoup de recommandations, mais je ne vois pas où est-ce qu'on a tenu compte de ces recommandations. L'une des grandes recommandations, c'était par exemple la récomposition du bureau. Mais pourquoi on n'en parle pas? C'est un élément majeur, parce que ces élections, on les fait pour un peuple, il faudrait que ces peuples, parce qu'on parle de la crédibilité, c'est par rapport à nous, Congolais. Mais pour qu'il y ait crédibilité, il faut que ces gens-là vous fassent confiance. Or, on sait que dans l'opinion ici, on n'a pas confiance à ce bureau-là. Et donc, c'était une des premières préoccupation qui devait, à mon sens, précéder tout ce qu'on vient de faire ici.
Pourquoi? Mais on a suivi le président de la CENI qui dit avoir tenu compte de toutes les recommandations.
On ne sait pas le voir.
De l'évaluation d'avril.
Plus visiblement, ce serait d'abord la recomposition de ces bureaux-là. Ça aurait arrangé avant qu'on ne parle des autres choses. Regardez, ce calendrier s'étend sur pratiquement 2 ans. Et nous avons une mandature de combien d'années? C'est 5 ans. Quand on arrive en 2014, il va rester combien de temps? Alors, ces gouverneurs qui viendraient par la suite.
Et là, on aura un cycle irrégulier.
Vous comprenez? Donc, c'est déjà biaisé. C'est qu'on s'en fout. On tente pour voir quelle sera la réaction au niveau de la population, quelle sera la réaction au niveau de la classe politique, au niveau de l'opinion. Pour l'instant, c'est vraiment un non-événement. Et vous avez remarqué qu'il y a une une telle froideur si ce ne sont que nous-mêmes journalistes qui en parlons.
Joseph Makamba, comment ce calendrier a été accueilli à Kanango, au Kassai occidental?
Je vais y aller presque dans le même sens que Yves qui venait de parler. D'abord, le premier problème qui s'est posé avant qu'on puisse arriver à sortir un calendrier, c'était chercher à convaincre l'opposition et la société civile sur la fiabilité des membres du bureau de la CENI. C'est là où s'est posé d'abord le problème. Parce que de la manière dont les élections se sont déroulées le 28 novembre 2011, la population est devenue trop sceptique. Elle ne peut plus facilement croire en des élections dans ce pays. Alors il avait fallu commencer par tenir compte de certaines recommandations qui avaient été formulées, notamment, comme il venait de le dire, revisiter la composition du bureau de la CENI. Et aussi, quand on pénètre bien ce calendrier, on a pratiquement 3 ans entre les institutions d'une même législature. Le maire de la ville ne pourra être élu que le 30 mars 2014. Le chef de l'État a été élu le 28 novembre 2011. On fait les calculs, on voit combien de temps passe. Donc, pour une même législature, on a des institutions qui pourront venir 3 ans après les autres. Vous voyez un peu que c'est un déséquilibre qu'on est en train de créer dans la marche de ces institutions. Et le Sénat et l'Assemblée nationale, les institutions qui sont censées siéger ensemble. On a le Sénat qui ne pourra entrer en fonction qu'à partir de, je crois, juin 2013. Vous voyez, l'Assemblée nationale est déjà à l'œuvre. On doit attendre un Sénat qui doit venir une année après l'Assemblée nationale. Et entre-temps, comment est-ce que le Sénat de la législature passée va vivre avec l'Assemblée nationale de cette législature? Vous voyez que c'est une situation qui continue toujours à faire créer des doutes dans la tête des électeurs de la population. Donc, par rapport au calendrier tel que publié par la CENI, ça ne peut toujours pas convaincre la population parce que on est en train de créer au contraire plus de scepticisme et de pessimisme dans la population. Vous voyez aussi, Kelly, il y a un problème. On sait que la CENI est toujours pleine de manques de moyens. Est-ce qu'elle a déjà réuni tous les moyens? Parce que le 25, c'est dans quelques jours, le 25 juin, quand on doit tout commencer avec les premières opérations cadrant avec les élections qui pourront venir.
Israël Moutala, le député Emery Okundji de l'opposition au cadre du FONUS, a déposé au bureau de l'Assemblée une proposition de loi demandant la restructuration du bureau de la CENI. Il demande d'après que les membres de la société civile puissent faire partir du bureau. On sait que le Sénat avait proposé ça et que l'Assemblée nationale n'était pas d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui les députés ne sont pas tombés dans leur propre piège?
Oui, je pense qu'ils sont tombés dans leur propre piège. Moi, je pense que cette question de la société civile est une question qui revient toujours. C'est parce que de quelle société civile parle-t-on? Je pense qu'à l'époque, l'Assemblée nationale avait écarté la société civile parce qu'elle pensait que la société civile, d'une manière ou d'une autre, était plus ou moins politisée. Et donc, ils ne voyaient pas l'intérêt justement de l'intégrer dans le bureau de la CENI. Donc aujourd'hui, la même question revient encore. On a vu lors de la CEI, la personne qui a présidé la CEI, l'abbé Malou Malou, était de la société civile. Mais ça n'a pas empêché que les élections que cette personnalité avait organisées en 2006 soient contestées. Ngoï Moulunda, formellement, il est de la... Ah, je dis bien formellement, il est de la société civile. Bien que politiquement, il est proche du PPRD, mais formellement, il est pasteur d'une église, il était président d'une ONG, donc il n'a jamais fait de la politique active formellement parlant. Je pèse mes mots. Et donc, la question de la société civile, il s'agit de quelle société civile et dans quelle proportion? Pensez-vous que dans le bureau de la CENI, s'il y avait un seul membre de l'opposition, dans la configuration actuelle, quelque chose allait changer? Parce que dans le bureau de la CENI, je rappelle quand même qu'il y a 3 membres de l'opposition. Ces 3 membres de l'opposition, aucun d'entre eux n'a émis une quelconque réserve quant au résultat de la fois passée. Aucun d'entre eux n'a démissionné. Tous ont certifié que ces résultats là-bas étaient véridiques, les résultats électoraux. Et moi, je ne pense pas que l'introduction d'1 ou 2 membres dans la configuration actuelle du bureau va changer quoi que ce soit. Je ne le pense pas.
Innocent Kaboukala, restructurer le bureau de la CENI aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de prendre encore beaucoup de temps parce qu'il faut choisir qui sera dans le bureau et qui n'y sera pas, et après confectionner un autre calendrier? Ça risque pas d'être trop long et on se retrouve avec des élections qui iraient jusqu'en 2015-2016.
Je serais tenté d'abonder dans votre sens, Kelly. Mais je me dis que le problème de temps s'était déjà posé à l'issue du dialogue intercongolais. On l'a négligé et il nous a rattrapé aujourd'hui. Déjà, parmi les acteurs, parmi les participants au dialogue intercongolais, il y en avait qui avaient demandé carrément qu'on ait une transition de 5 ans. Parce qu'on estimait que dans les 5 ans, il y avait la possibilité de résorber l'ensemble des questions qui se posent aujourd'hui, notamment des questions d'intégration, parce qu'il y avait ce problème-là qui se posait, hein, entre les différentes fractions d'armée. On avait posé ce problème de temps, 5 ans, on pouvait résorber l'ensemble de ces questions-là. On a dit non, c'était pas possible, il faut 3 ans parce qu'il fallait aller vite aux élections. Le terme, c'est aller vite. Et quand vous revenez aujourd'hui pour parler de la vitesse, donc on en revient à cette case-là de départ. Parce qu'on n'a pas résolu cette question-là. À quoi servirait d'aller vite si ce qu'on est en train de faire, ça ne sera pas du solide? Moi, je crois que si le temps l'exige, pour autant que le résultat pourra être fiable, il faut le faire. Il faut le faire. La recomposition, quand on parle de l'intégration de membres de la société civile, bon, là aussi il y a un problème. Est-ce que c'est parce que le terme société civile existe qu'il faut l'employer tel quel, et que cela signifie quand je suis membre de la société civile, et donc je suis aussi sérieux? Non, c'est pas ça. Moi je pense que le problème c'est celui de la mentalité, la conscience dans ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que nous pouvons penser que nous sommes des responsables à partir du moment que nous sommes appelés à des tâches spécifiques pour l'avenir de notre pays?
Donc c'est pas opportun de restructurer le bureau de la CENI?
Je voudrais bien, mais je voudrais qu'on ait pour critère, non pas la société civile, mais pour critère, des hommes consciencieux.
Joseph Makemba, aujourd'hui la RDC a un cycle électoral irrégulier. Qu'est-ce qu'il faut faire, d'après vous, pour pouvoir l'harmoniser?
Je pense que ce qui peut être fait maintenant, c'est un peu dur. Hein. On ne sait pas ce qu'on peut dire à la CENI ou au gouvernement congolais pour comprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites autour des processus électoraux. On est resté un peu plus sourd à tout ce qui a été formulé comme recommandation. Mais je pense que sur base de ce qui s'est passé aux élections de 2011, on peut bien organiser les élections et réorganiser le cycle électoral, rendre les élections plus viables. C'est-à-dire, on doit se rassurer de la neutralité des membres de la CENI. Bien sûr que les membres de la CENI sont partie des familles politiques, mais il ne faudra pas qu'en travaillant au sein de la CENI, on continue toujours à répondre aux partis politiques, aux familles politiques. Ça, c'est ça le plus grand problème. Si les membres de la CENI ne comprennent pas qu'ils doivent être neutres, qu'ils ne doivent pas se pencher de d'un ou de l'autre côté, je pense que ça ne pourra toujours pas rendre le processus ou les cycles viables, parce que chaque fois, chacun cherchera ce qu'il se retrouve dans ce qui sera planifié, dans ce qui sera organisé, suite à ce qui lui sera donné comme instruction par sa famille politique, par son regroupement. Et la société civile, elle voudrait bien être dedans. Mais il y a un problème, comme le confrère venait de le dire. La société civile a une mosaïque, on sait, il y a certaines personnes qui ont été amenées dans la société civile par certaines familles politiques pour déstabiliser la société civile. Alors, étant donné qu'on ne sait pas identifier ou établir le vrai caractère civil de cette société-là, je pense que ce qui serait mieux à faire, c'est de chercher à composer les bureaux avec des gens, comme Yves l'a dit, des gens qui méritent la confiance. Alors, quand on aura des gens qui méritent une confiance de toute la population, la confiance de toute la population, les choses pourront bien marcher, et surtout quand ils auront compris qu'ils sont dans une institution neutre.
Merci Joseph Makemba. Deuxième et dernier terme de ce soir, direction Kassa Occidental, où l'Assemblée provinciale a démis mercredi dernier le gouverneur de province. 11 griefs sont retenus à charge d'Hubert Kabasubabu, dont la mauvaise gestion des finances de la province. Au cours de la courte plénière de mercredi dernier à Kananga, 30 députés provinciaux sur 33 ont voté pour la déchéance de l'autorité provinciale. Le vote s'est déroulé en présence d'une foule importante, dont une partie, huée les députés provinciaux. Cette élection a été suivie d'une confusion totale, au cours de laquelle quelques personnalités sont sorties blessées. La déchéance du gouverneur Kabasu Babo et de son gouvernement fait suite à la motion initiée contre lui par 25 députés provinciaux. De son côté, le gouverneur du Kassai Occidental conteste cette décision. Hubert Kabasu Babo parle d'une cabale politique montée de toutes pièces. Selon lui, l'argumentaire évoqué par l'Assemblée provinciale ne tient pas la route. Le gouverneur du Kassai Occidental compte donc saisir la Cour suprême de justice. On l'écoute au téléphone de Paul Matendo.
D'abord, l'argumentaire est fissuré complètement. Il parle de l'incapacité du gouvernement provincial de maximiser les recettes de la brigade de mobilisation des recettes. Ce qui est faux, parce que moi j'ai trouvé au mois de mai, cette brigade ne faisait pas en moyenne plus de 50 millions ou de 40 millions. Aujourd'hui, je l'ai amené à 150 millions. C'est qu'ils n'ont pas pu faire pendant 5 ans avant que j'en arrive. Donc ils peuvent pas, en toute logique, parler d'incapacité de maximiser les recettes. C'est même ridicule. Maintenant, ils se focalisent sur le fait que bon, on devrait extraire des recettes supplémentaires de la régie des eaux, de la SNCC, de la SNL. Mais c'est absurde parce que ce sont des entreprises qui sont en déficit d'exploitation. Donc on ne peut pas faire des ponctions fiscales supplémentaires sur des entreprises qui sont en déficit d'exploitation. Ça n'a pas de sens. C'est de la mesquinerie politique. Ce n'est pas digne de la République. Et donc, nous allons saisir la Cour suprême de justice qui va trancher, quoi.
Joseph Makamba, vous êtes directeur de programme de la radio-télévision Malandji. C'est une radio qui émet depuis Kananga au Kassai Occidental. Vous maîtrisez peut-être cette question mieux que nous puisque vous êtes sur place à Kananga. Comment on peut analyser cette décision de l'Assemblée provinciale du Kassai Occidental? Certaines personnes parlent des sanctions politique plutôt qu'administratif.
Oui, Kelly, ce qu'on a pu réaliser ou ce qu'on a pu dénoter de tout ce qui s'est passé entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, on peut les regrouper à deux niveaux. Sur le plan administratif ou en ce qui concerne le fonctionnement des institutions, ce qui a été relevé par l'Assemblée provinciale dans la motion signée par les 25 députés est fondé. Le gouverneur de province lui-même dit qu'on est passé de 50 à 150 millions, mais on ne sent pas ce que les 150 millions ont apporté à la province. C'est ce qui prouve que, comme les députés l'ont dit, les recettes de la province sont affectées à autre chose qu'à ce qui, c'est à quoi elles devraient être affectées. Donc c'est un problème de gestion. Il se contredit quand il parle de ces succès enregistrés pour une année qu'il a passé à la tête de la province du Kassai Occidental. Donc on a établi beaucoup de choses. Moi-même j'étais à la plénière quand on présentait les rapports sur le contrôle parlementaire sur la BMR, on a relevé beaucoup de choses. La BMR est appelée à être une institution autonome. Mais comment voulez-vous qu'une institution autonome, pour libérer les fonds, les recettes de cette institution, les ministres provinciaux des Finances doivent signer conjointement avec les directeurs de la BMR? En quoi est-ce que la BMR est autonome? Donc le gouverneur de province ou le gouvernement provincial a brillé par cet aspect de choses. Donc il y a eu un problème réel de gestion. Les recommandations qui ont été formulées par l'Assemblée provinciale sur les recettes provinciales sont restées lettres mortes. Donc par rapport à la gestion, vraiment, il y a eu des choses établies par les députés provinciaux. Mais par rapport au deuxième aspect, l'aspect politique, on ne peut pas négliger ça. Ce qui est formel, c'est ce qui a été évoqué par les députés provinciaux sur la gestion ou la gestion de la province du Kassai Occidental. Mais ce qui est informel, les politiques, on ne peut pas s'en passer. On sait que le gouverneur, on parle du gouverneur parce que c'est lui qui est le chef du gouvernement, lui, quand il est arrivé ici, il est quand même arrivé au nom d'une famille politique. Aujourd'hui, c'est la même famille politique qu'il a désavoué. Donc, on sent qu'il y a eu des problèmes. Et ces problèmes-là prouvent que le gouverneur de province est resté un peu distrait par rapport à certains signaux. Le gouverneur de province, on connaît, Hubert Kabasu Babo, dès le départ, il était du côté du RCD, un parti opposé au pouvoir. Et quand il est venu du côté du pouvoir, alors il lui avait fallu prendre du temps pour comprendre le rouage du fonctionnement de ceux qui étaient au pouvoir cette fois-là. Et pour l'aider à maîtriser vite les rouages du pouvoir, on lui a donné un directeur de cabinet qui était vraiment un membre actif du PPRD, Serge Mabé, pour ne pas le citer. Mais la cohabitation entre lui et Serge Mabé n'est pas restée. n'est pas restée bonne jusqu'à ce que Serge Mabé a démissionné. On connaît ce que Serge Mabé représente du côté du secrétaire général du PPRD.
Joseph Makamba,
oui.
Par rapport à la procédure des déchéances, oui. Est-ce qu'elle a été respectée? Parce que le gouverneur n'a pas eu le temps de venir se défendre devant l'Assemblée provinciale.
Les texte ne prévoit pas à ce qu'il y ait un débat entre le gouverneur et l'Assemblée provinciale, mais quand même, on a écrit au gouvernement provincial pour que, quand on a transmis la motion, on a signifié au gouvernement provincial qu'on allait accorder du temps si le gouverneur peut venir. Alors, celui qui faisait l'intérim cette fois-là a répondu qu'il ne pouvait pas aller à l'Assemblée provinciale parce qu'il n'était pas élu. Donc, la procédure a été épuisée, mais c'est le gouvernement provincial qui n'a pas pu sauter sur l'occasion.
Et non, son Kaboukala, comment vous analysez cette situation dans la province du Kasaï occidental, plus précisément à Kalanga?
Ça, pour moi, ça me fait sourire un peu parce que je vois que c'est un problème récurrent pratiquement dans toute la RDC et qui prouve à suffisance que nous n'avons pas encore réussi la question de comment on appelle les gouvernements provinciaux. Cette question a été soulevée d'ailleurs, a été soulevée lors d'une adresse, je crois, dans une des... dans les mots d'ouverture d'une des sessions du Sénat, hein, par le président Léon Kengwa Dondo. Cette expérience ne nous a pas réussi. Nous avons beaucoup d'amateurs dans ce domaine. Et beaucoup aussi étaient malins en choisissant d'aller en province parce qu'on était loin de Kinshasa et comme le contrôle n'est toujours pas très sérieux de ce point de vue, de ce côté-là, donc c'était... des espèces de vaches allaient pour ces gens-là qui allaient là en province, parce qu'on les contrôlait pas assez. Vous verrez que les motifs sont restés pratiquement les mêmes, si pas l'unique. Partout où il y a eu des problèmes, c'est la concussion. C'est la question des finances. Voilà pourquoi les gens ont choisi d'aller au niveau de l'exécutif provincial, c'est pour se servir. Il n'est pas le seul. Vous verrez qu'il n'y a qu'une exception où quand il y a un problème, c'est un problème d'autre type. Quand on est au Katanga, on ne parle pas assez de problèmes de concussion, même ça, quand il y a des problèmes, et on sait toujours les maîtriser. Pourquoi? Parce que d'abord, le gouverneur de là, on sait que c'est un homme d'affaires. Bon, s'il peut avoir des mêlées comme ça financières, mais ce n'est toujours pas très visible. Pas très très visible. Donc, on a comme l'impression que c'est un monsieur qui travaille très très bien, indépendamment des autres. Dans le Bas-Congo, le problème s'est pas tellement posé. Hein, à Kinshasa, bon, on n'en parle même pas parce que vous avez la confusion entre le gouvernement central et puis le gouverneur de la province, il est là. Bon, il y a quand même beaucoup de confusion. Mais pour le reste, il ne sait pas toujours le problème et le mot est resté, le mal est resté la concussion. C'est que on n'a pas eu le temps suffisant pour pouvoir préparer ces gouvernements au niveau des provinces. C'est un échec, ça prouve vraiment de l'amateurisme. On a besoin de refaire, si pas, il est même possible qu'on puisse supprimer. Peut-être les gens me prendront pour un fou, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Mais je me dis qu'il y a quand même, il y a une difficulté, on n'a pas préparé ça. C'est des notions que nous n'avons pas intégrées et nous avons du mal à l'assumer. On va aller, d'après le calendrier électoral ici, le calendrier de la CENI, je crois, déjà l'année prochaine, on va répartir. Mais est-ce qu'on a pu tirer d'abord les leçons de tous ces problèmes qui se posaient dans ces termes-là au niveau des provinces? Je crois que il y a un sérieux problème. On a besoin, peut-être d'abord, de sensibiliser les gens et aussi de créer des structures indépendamment des individus, sensibiliser pour expliquer le vrai travail de ces gens-là. Et à ce moment-là seulement, on pourra appliquer et envoyer, commencer à trouver des personnes qui peuvent bien faire ce travail-là. C'est triste. Bon, c'était un peu mal passé aussi, si tu vois que c'est chez moi.
Certaines personnes parlent de règlement de compte entre le gouverneur et les députés provinciaux.
Bon, les aspects politiques, notre confrère qui est là sur place, il vient de le dire, hein, bien qu'il a tendance à me confondre, moi je ne m'appelle pas Yves, c'est innocent. Et le problème, les aspects politiques sont toujours là, hein, de façon générale, parce que, vous voyez, il vient du RCD. Bon, le RCD va s'allier à la majorité, bon, il n'est toujours pas bien perçu. On aurait bien voulu que ce soit quelqu'un pur sang de cette majorité-là. Oui, à l'instar de Kapuku qui était aussi du RCD, qui s'est transformé en majorité et puis ça n'a pas marché. Oui, donc on aurait bien voulu que ce soit, par exemple, quelqu'un qui s'appellerait ou qui serait envoyé par le secrétaire général du PPRD et ça marcherait. Ici, on vous a même appris que le directeur de cabinet, c'est mon ami Serge Mabé qui est parti là. Bon, quand il parle, on sait pourquoi. Donc, on a toujours besoin d'un contrôle parce qu'en fait, on se dit que le pouvoir, bon, il y a le PPRD qui devrait quand même s'accaparer de toutes ces choses-là. Il y a un contrôle. Alors, quand on ne sert pas très bien, bon, on vous crée un problème. Hein, quand on n'a pas servi à tel autre intérêt, bon, on crée un problème et puis c'est le gouvernement qui doit répondre. On trouve toujours des petites bêtes. Mais pourquoi on n'en a pas parlé tout ce temps? C'est seulement quand aujourd'hui il se poserait ce problème-là, peut-être qu'on n'a pas bien fait ce partage. Le confrère vient de le dire. Lui est passé de 50 à 150. Mais on n'a pas ressenti ça au niveau de la population. Donc c'est que il a pris quelque part cet argent-là et tout le monde est au courant de cela. Et c'est pour cela qu'on lui crée cette guerre aujourd'hui.
Israël, comment vous analysez cette situation?
Non, cette situation pour moi...
C'est le deuxième gouverneur qui part dans cette province.
D'abord, je reste sur Kabasuba. Je pense que ça aurait été encore un bon gouverneur à la tête de cette province et que c'est dommage qu'il soit parti. En fait, c'est... Pratiquement, pour moi, cette motion, c'est une motion politicienne. C'est les complots de la médiocrité sur la bonne gouvernance. Le problème n'est pas de la mégestion parce qu'il n'y en a pas. Les gens veulent s'attribuer 150 000 dollars. Mais 150 000 dollars pour le besoin de la province, c'est une goutte d'eau dans l'eau. Kabasubabu, je pense que le peu de temps qu'il a passé là-bas, est la seule personnalité politique en tant que gouverneur qui a ouvert un compte qui retrace les droits perçus dans le secteur minier. Aucun de ses prédécesseurs n'avait fait ça. Le vrai problème, c'est parce que il a amené une certaine culture de la rigueur et de la bonne gouvernance, notamment en sanctionnant le maire de la ville de Kananga, qui avait pour le problème de détournement, qui était en conflit avec le maire adjoint. Or, on connaît que le maire de Kananga, de la ville de Kananga, est puissant. La mère, elle est puissante. Elle est vraiment réseautée au PPRD. C'est ça le problème. L'autre problème, c'est d'avoir sanctionné un autre fonctionnaire qui avait pris 100 000 dollars de l'UNICEF, qui n'a apporté aucune pièce comptable justificative. Ce sont des hauts fonctionnaires qui l'ont sanctionné pour leur mégestion et qui ont remué ciel et terre pour que ces mesures soient levées. Quand on parle du contre-saint du ministre de Finances, mais le ministre de Finances est quand même l'ordonnateur. Le BMR n'est qu'une structure chargée de collecter l'impôt et toutes les taxes provinciales. Mais pour les affecter, justement, il faudrait que le ministre des Finances puisse paraffer. Mais bon, mais pour une question administrative, on ne peut pas quand même faire partir le gouverneur. Le vrai problème, c'est que les mentalités n'ont pas encore changé, les forces du statu quo n'ont pas encore changé. Quand il y a un gouverneur qui entre en fonction, il travaille pour la province, il ne travaille pas pour le parti. Ici, il y avait un conflit entre Kabasubabu, qui était président de l'interfédéral du PPRD, et le président fédéral du PPRD. Donc, il y avait un conflit entre ces deux personnalités.
Alors, vous parlez de rigueur et bonne gouvernance qu'il a apporté dans la province, mais on ne sent pas ça au niveau même de la province. Ceux qui sont dans la province ne voient pas le changement qu'il a apporté.
Madame, nos provinces sont très pauvres, très pauvres. Que peut-on faire avec 150 000 dollars? Ce n'est qu'une étape. On a quitté à 50 000 dollars. On arrive à 150 000. C'est un cheminement. Mais c'est un cheminement. La province il faut faire la voirie. Il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes de courant. Mais on a oublié que justement le gouvernorat de Kananga a payé une certaine somme à la régie des eaux et à la SNEL pour qu'il y ait fourniture d'eau au moins 3 fois par semaine, fourniture du courant au moins, je crois, 2 fois. J'ai oublié. Mais pour qu'il y ait un peu cette régularité là-bas. Mais c'est difficile. Les accords qui ont été signés avec la SNCC pour que le train marchandises arrive afin que les prix de produits agricoles et alimentaires puissent baisser. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais tout ça, justement, il faut du temps. Mais les gens veulent que l'argent de l'État puisse profiter aux partis. Non, il faudrait que nous grandissions dans la façon de gouverner ce pays. Il ne faudrait pas, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, parce qu'il ne vous a pas donné l'argent pour alimenter le parti, vous fabriquez une motion politicienne de toutes pièces. Et c'est dommage, l'instabilité politique, toutes ces motions, souvent qui sont mues, le sont pour des raisons apparentes de concussion de corruption. Les gouverneurs, ils ne sont pas si bêtes tous pour tomber dans le même piège. Donc, les députés ont acquis cette manie de truander l'exécutif en agitant l'épouvantail de la motion. C'est connu.
Merci Israël Moutala. Il nous reste moins de 3 minutes pour mettre fin à cette émission. Je vais vous demander d'être bref dans vos réactions. Joseph Makamba, est-ce que cette déchéance du gouverneur Hubert Kabasubabu pourra avoir des conséquences sur le fonctionnement de la province? Brièvement.
Bon, les conséquences ne peuvent pas manquer parce qu'on doit prendre du temps pour avoir un nouveau gouverneur et on ne sait pas quand est-ce que ça pourrait intervenir. Et aussi une crise inévitable qui s'annonce, c'est rare maintenant par rapport au prochain gouverneur. Parce que ici, au Kasaï occidental, la vision est que les prochains gouverneurs, après Kabasubabu, soit quelqu'un qui soit parti de Kananga, pas encore quelqu'un qui viendrait de Kinshasa. Alors, s'il est vrai que la dimension politique a plus pesé dans la déchéance d'Hubert Kabasubabu, il aura fallu alors que l'idée de Kinshasa puisse envoyer quelqu'un d'autre pour remplacer Hubert Kabasubabu. Alors on se demande comment ça pourra passer, ça pourra se passer entre les deux candidats, un candidat parti d'ici et celui qui viendrait de Kinshasa. En dehors de cela, l'autre problème qui se pose, moi je pense que le gouverneur je lui demanderai de s'abstenir d'aller en justice parce que ce n'est pas important, c'est déjà arrivé. Et ici, nous qui sommes à Kananga, nous sentons que ce n'est qu'un vent qui vient de commencer avec Hubert Kabasubabu qui pourra aller au-delà, au bureau de l'Assemblée, au sein même du PPRD. Donc il n'a que prendre tout son courage, songer à autre chose. Et ici au Kasaï occidental, j'espère qu'on a tout le temps pour réfléchir à ce qui sera de l'avenir de cette province.
Merci.
Qui a eu trois gouverneurs et il a tenu.
Merci Joseph Makamba, Innocent Kaboukala. Est-ce que ce qui arrive au Kasaï occidental aujourd'hui ne va pas replonger la province dans une crise interminable jusqu'aux prochaines élections?
Bon, peut-être on peut utiliser le mot crise.
Élection provinciale.
Le mot crise, on peut l'utiliser, mais ce n'est pas une crise qui pourra peut-être paralyser la province. Oui, on peut avoir une crise peut-être au niveau des instances politiques, parce que il faudrait que l'on sache qui va remplacer qui et qui viendra d'où et tout ça, comme on a de le dire. Et c'est peut-être à ce niveau-là, ce sera une crise purement politique, mais qui n'aura peut-être pas un impact réel sur cette population, déjà elle-même qui n'est pas prise en charge, parce que déjà là, on se bat, c'est parce qu'on voudrait se partager les 150 000 que mon confrère est en train de négliger. L'estime que 150 c'est peu pour. C'est vrai, nos provinces sont pauvres, mais quand il y en a peu, il faut quand même essayer de bien les gérer. Si le cas s'avérait vrai, parce que peut-être vous et moi n'avons pas été sur place pour avoir le plus d'informations possible, mais il est vrai que si il y a 150 000 et qui peuvent servir à quelque chose, il faut que ça soit affecté à cette fin-là. Mais une autre chose, je termine par là, Kelly. Le problème. C'est une autre faiblesse, hein, c'est au niveau de ce choix de toujours prendre des gens qu'on qualifie d'originaires. Ça nous colle encore une fois de plus. Parmi les faiblesses que nous avons enregistrées dans cette manière de voir les choses, hein, pour les gouverneurs des provinces qui ne doivent être que des originaires, parce que là on estime qu'ils sont chez eux, ils peuvent bien faire le travail, mais ce n'est jamais un succès comme tel.
Merci Nonson Kabkala, Israël Moutala. Certaines personnes estiment que c'est le clientélisme qui caractérise nos députés provinciaux et c'est ça qui est à la base de toutes ces motions de défiance à gauche, à droite, dans différentes provinces.
Madame, c'est cela, et vous en avez un exemple patent au Kasaï occidental. La question des 150 000 là-bas, c'est un prétexte. Parce que c'est cette somme qui sert justement à payer la SNEL, à payer la régie des eaux, à faire le peu de travaux qui sont en cours là-bas dans la province. Hein, c'est cela justement. Et la province, comme on vous l'a dit par exemple, l'histoire de la sanction pour négative de la maire de Kananga. Justement, l'argent, un autre projet d'Oxfam qui appuie la vie de Kananga pour l'assainissement, qui a prévu une rubrique dans laquelle il y avait fallait acheter un camion. Or, la ville avait deux camions. C'est cet argent qui a mis à couteau tiré la maire et son adjoint. Quand elle est sanctionnée, elle profère des insultes, elle agite tout Kananga et tous ses réseaux, et voilà. Donc, c'est une question de mauvaise gouvernance. Il y a des habitudes qu'il faut changer là-bas, c'est tout.
Merci Israël Moutala. Merci à vous, chers confrères, d'avoir accepté cette invitation. Merci à Alain Roux qui est à la réalisation. Alain Goy était à la technique, au micro Kéline Kouté. Merci également à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Samuel Kachak, sous la supervision de Pelle Kipelamondo. Bonne suite de programme sous la fréquence de la paix.